Radio Campus 88.3.
Écoute ta fac. Écoute ta fac. Tous les jours de midi à 13h sur Radio Campus. Écoute ta fac, c'est des reportages, des chroniques, de la musique, mais surtout de la bonne humeur. On va la refaire celle-là.
Bonjour à toutes et à tous, il est midi sur Radio Campus Orléans, je suis Erwan. On est ensemble jusqu'à 13h en ce mercredi 18 septembre 2024. Aujourd'hui, c'est la journée, la semaine, c'est le début de la semaine européenne du développement durable. C'est également la journée internationale du bambou et du côté des Nations Unies, on nous dit que c'est la journée internationale de l'égalité de rémunération. Aujourd'hui dans Écoute ta fac, on va parler histoire avec une association étudiante qui s'appelle Histoire. On aura Hugo et Adrien dans quelques instants avec nous et en deuxième partie on ira à la découverte des programmes de ce grand réseau Radio Campus France. Je vais vous faire découvrir plein de belles choses, ça sera en seconde partie d'émission. Mais pour l'heure on continue, on commence même en musique. Popping at the Suit de High Tech, à tout de suite.
Let me do what I do. Baby, I got you.
No
kizzy.
C'est l'invité d'Écoute ta fac.
Écoute ta fac.
Aujourd'hui, Historiae, on se tourne vers l'Université d'Orléans avec la faculté de lettres, langues et sciences humaines et son tissu associatif. On a donc Historiae avec son président Adrien, salut.
Bonjour.
Et Hugo, son vice-président.
Bonjour à toutes et à tous.
Alors Historiae, je pense qu'on peut le dire, c'est dans le nom, vous faites de la science physique, vous faites de l'histoire. Oh là là, ça n'a pas marché ce petit humour, dommage.
Non, mais c'est stressant.
C'est stressant, c'est la première fois en radio ?
Oui, tout à fait, donc on n'a pas l'habitude.
Alors que ça fait 3 ans que tu as Historiae, tu me disais juste avant, Adrien, tu n'étais jamais venu à Radio Campus Orléans.
Je laissais ma place à d'autres camarades, dira-t-on.
Ah, mais aujourd'hui, tu te mouilles, tu viens à la radio et c'est un peu intimidant, tu me disais, le micro.
Tout à fait, oui. On n'a pas l'habitude, mais c'est marrant, c'est amusant, donc on va papoter.
Est-ce que vous avez déjà entendu en direct, parce que pour nos auditeurs et nos auditrices qui nous écoutent, si vous voulez, on a tous des casques sur les oreilles et on s'entend parler nous-mêmes. On n'entend pas que les autres, on s'entend soi-même. Sinon, ça serait un vrai mess en termes de technique de faire des... Enfin bref, du coup, on entend même sa propre voix. Est-ce que c'est la première fois que vous entendez votre propre voix comme ça, de cette manière-là?
Oui, c'est très particulier comme sentiment. On s'entend en écho.
Ouais.
Mais c'est un vrai métier la radio, on se rend compte, c'est vraiment bizarre de se parler et de s'entendre derrière. C'est très troublant, je trouve.
Oui.
Alors vous êtes du coup en... Alors ça fait 3 ans que t'es à l'université, donc là tu dois être soit en L3, soit en M1, c'est ça?
Du tout, enfin
du tout.
Entre guillemets, oui.
Pas du tout, je suis en doctorat.
À vrai dire, ça fait 6 ans que je suis à l'université d'Orléans. Donc j'ai fait 3 années de licence, 2 années de master de recherche en histoire et cette année je me relance dans un second master, celui qui se destine au métier de professeur d'histoire géographie.
Tout simplement. Et toi Hugo ?
J'ai le même parcours, sauf qu'au lieu de faire le master MEF, donc pour être enseignant, j'ai choisi plutôt une voie différente. Maintenant, je suis en master en droit public, métier d'accompagnement politique.
Okay.
Donc, j'ai un peu dérivé l'histoire, mais j'en fais encore.
Ouais.
Donc, tout va bien.
Ouais, donc il y a histoire. Alors, ce que je veux dire, l'histoire, c'est quand même assez vaste. Et l'histoire, il y a plusieurs applications. Donc, toi, professeur d'histoire, tu dessines plutôt là-dessus. Donc, j'imagine que ça va être plus. C'est quoi ta spécialisation? C'est quoi? Enfin, quelle partie de l'histoire tu aimes? Parce que c'est quand même grand, l'histoire.
Alors, de mon côté, je me suis spécialisée l'année dernière dans l'histoire de la guerre d'Algérie. Et plus précisément sur l'histoire de l'insoumission pendant la guerre d'Algérie. Je me suis aussi intéressée à un mouvement de contestation qui est la non-violence.
Ok, ouais, donc on est quand même dans l'histoire du XXe siècle, dans l'histoire qui est assez récente. On n'est pas sur du médiéval, sur de l'histoire de l'archéologie, parce que je crois que l'archéologie, ça rentre dans le champ de l'histoire, si je ne dis pas de bêtises.
On peut faire de l'archéologie pour faire de l'histoire, oui.
Voilà, tout simplement. Et,
voilà.
Et l'archéologie, c'est bien l'étude de l'être humain dans le passé avant l'invention de l'écriture, c'est ça? Les dinosaures, ça fait pas partie de l'archéologie, je crois que c'est la paléontologie.
Oui, non, c'est pas de... Mais c'est surtout l'archéologie, c'est plutôt les modes des sources qu'on va utiliser qui vont être différents de nous, par exemple. Nous, ça va être beaucoup des sources textuelles, iconographiques, etc. Alors qu'archéologie, c'est plus des fouilles sur le
terrain.
C'est du physique.
Oui,
voilà. Voilà,
c'est une autre science, en fait. C'est même, il y a des licences d'histoire et d'archéologie. Mmh. C'est vraiment une méthodologie différente.
Ouais, c'est vraiment la croisée de différentes choses. Et toi, du coup, c'est avec la croisée de la politique?
Oui, évidemment, je vais rien apprendre à personne. Moi, c'était vraiment centré sur la politique, notamment fin 18e avec la Révolution française, bien évidemment. Le 19e, je suis un 19e-iste, donc beaucoup sur les révolutions, notamment les révolutions socialistes, ouvrières, tout ce qui est mouvements sociaux. Je suis beaucoup penché dessus, notamment les associations républicaines sous les monarchies censitaires. Donc c'est vraiment... La politique, c'est mon sujet, j'adore. Et c'est pour ça que je suis en master de politique maintenant.
Vous voulez pas venir faire des podcasts à l'antenne de Radio Campus pour nous raconter tout ça en détail?
Ah, pourquoi pas, hein.
Allez,
on peut faire ça, on peut faire ça.
Ça, oui.
Justement, on en parlait.
Ah, c'est vrai, vous en parliez juste avant de venir. Parce que, du coup, Historiae, on va peut-être parler de l'association et de ses différents projets. Il y a aussi un projet médiatique, on va en parler dans quelques instants. Adrien, je me tourne vers toi. Puisque quand je t'ai évoqué juste avant qu'on passe à l'antenne, raconter un petit peu l'histoire d'Historiae, un comble, tu as fait un grand sourire, un regard de « je peux faire ça ».
Tout à fait. Donc l'association Historiae est une association étudiante en histoire, on ne vous l'apprend pas. Elle a plusieurs années, hein, je dirais 5 à 6 ans. Il faut savoir que l'association...
C'est si jeune que ça?
C'est assez jeune parce que finalement l'association change de nom. Elle comportait un autre nom avant. Je ne connais néanmoins pas ce nom-là parce que je n'étais pas encore à la faculté. Mais lorsque je suis arrivée à l'Université d'Orléans, première journée d'intégration, on nous présente Historiae. Donc on a envie d'en savoir un peu plus sur cette association qui combine à la fois culture et événements un peu plus festifs. Et donc je me suis laissée porter et maintenant ça fait 3 ans que j'anime justement ces projets.
C'est un ancien maintenant, il faut le dire.
Et donc du coup ça a commencé il y a 6 ans, il y a eu quoi comme projets jusqu'à présent qui ont été menés?
Alors déjà de manière générale on s'intéresse aussi à faire visiter la ville d'Orléans finalement aux néo-étudiants orléanais. Donc généralement on fait la visite historique de la ville d'Orléans. Je pense particulièrement à la visite que nous avons organisée l'année dernière, c'était la visite de la cathédrale d'Orléans, donc une visite historique.
Les sous-sols ou les hauteurs?
Eh bien justement, nous avons fait les deux.
Ah, bien.
Donc ce qui permet de voir Orléans déjà sur une facette différente
et
nous offrir un panorama de la ville plutôt très intéressant. Puis je pense aussi à d'autres visites comme la crypte de Saint-Aignan, qui est un vestige du XIe siècle, dédié aux reliques de Saint-Aignan, qui est le patron d'Orléans dans le christianisme. Chaque année aussi, nous avons à cœur de faire une visite avec le CERCIL. Donc le CERCIL, c'est le musée mémorial des enfants du Veldiv. Donc comme vous pouvez l'entendre... Historiae propose des activités, des sorties locales, mais parfois un petit peu plus régionales. Comme l'année dernière, encore une fois, nous avons proposé une visite guidée du château de Fontainebleau.
Eh bien, pas mal de choses. Moi, je me rappelle qu'il y a une crypte en haut de la rue du Bourdon Blanc. C'est pas Saint-Aignan, c'est une autre, je crois.
C'est la crypte de Saint-Aignan, me
semble-t-il. Ah, c'est Saint-Aignan,
justement,
d'accord.
C'est celle-ci.
Ok. Parce que moi, je me rappelle l'avoir visité. Il y avait une anecdote par rapport à des piliers ronds d'un côté, des piliers carrés de l'autre côté. Est-ce que vous l'avez?
Tu l'as? Pour l'anecdote, c'est
ouais,
ça?
Ouais, vas-y,
ah,
vas-y,
non,
vas-y.
Du tout,
non,
du
pas
tout,
du
non,
tout.
Non.
Mais ouais, en haut de la rue du Bourdon Blanc, ouais, il y a une crypte. Mais pour moi, Saint-Aignan, c'est sous la grande église.
Non, c'est à côté.
C'est à côté.
C'est sous l'église qui porte d'ailleurs son nom, hein, Saint-Aignan.
Ouais, bah moi je me rappelle justement de l'avoir visité et vraiment une petite crypte, on descend l'escalier puis on arrive dans cette grande pièce et vraiment elle est séparée en deux, il y a un grand mur.
Oui, oui.
Et en fait d'un côté il y a des piliers carrés et de l'autre côté il y a des piliers ronds. Et puis le guide à ce moment-là il nous pose la question, il nous dit bah pourquoi selon vous il y a des piliers ronds et des piliers carrés? Pourquoi selon vous il y a des piliers ronds et des piliers carrés? Je vous pose la question ici.
Je vais laisser la parole à Hugo. Bon courage.
Joker.
J'en ai absolument aucune idée. Alors là.
Et bah c'est franchement en vrai, j'étais étonné de la réponse. Jamais j'aurais deviné par moi-même. En gros, c'est une question. Il y a un côté c'est les mortels et un côté c'est le divin. Et
d'accord.
En gros, le côté
ah,
des piliers carrés, c'est là où en fait, du coup, les croyants en fait, ils venaient justement en pèlerinage, ils venaient prier justement les divinités. Et c'est de l'autre côté où il y avait vraiment l'autel du côté des piliers ronds. La rondeur qui signifie justement bah, le côté divin, la beauté, etc. Quelque chose de raffiné, où il y avait justement l'autel avec justement les divinités, enfin la divinité, parce que du coup on est dans le christianisme, où il y avait peut-être les saints, les trucs comme ça, mais j'y connais absolument rien, puisque ça, vraiment, j'ai qu'une anecdote à vous donner, c'est déjà pas mal. Mais voilà, donc voilà, c'est la seule anecdote que j'ai retenue de cette crypte, et c'est assez intéressant. Justement, je crois que je me demande si elle n'est pas ouverte toute l'année, justement, du côté de l'office de tourisme. En tout cas, ce week-end, il y a les journées du patrimoine.
Tout à fait.
Matrimoine ou notrimoine?
J'ai pas compris.
Parce qu'on dit tout le temps les journées du patrimoine. Il y a quelques années, on a entendu de plus en plus le mot matrimoine.
D'accord.
Et moi, j'ai découvert il y a pas longtemps vraiment le mot le notrimoine, où c'est vraiment le nôtre. C'est des termes que vous avez déjà
D'accord.
entendus. Est-ce que c'est des termes que vous utilisez plus que ça, non?
Non, non, non.
Non, non. Après, de mon côté, je vais jouer la carte blanche. C'est-à-dire que je suis surtout du côté enseignement. Donc, c'est vrai que le côté patrimoine, on n'a pas l'habitude
nous,
de travailler.
Nous, on a fait une licence parcours MEF. Du coup, on n'a pas du tout fait patrimoine. On n'a pas eu de cours là-dessus.
Ouais.
Et je vous avouerai ne jamais avoir entendu le terme.
Du notrimoine.
C'est pas que nos professeurs d'histoire ne nous écoutent pas à ce moment-là.
Ouais. Par contre, matrimoine, vous l'avez déjà entendu.
Oui, tout à fait.
Vous l'avez déjà entendu.
Oui.
Ce week-end, vous allez visiter quoi ce week-end?
Eh bien, bonne question. Ce week-end, moi, j'avais décidé de monter à Paris, de me laisser guider. Donc voilà. Tout
pareil.
J'ai pas de réel programme. Je vais me laisser tenter par.
À Paris.
À Paris. Donc généralement, moi, j'ai mon petit dada, c'est les archives.
Ouais. Ah,
donc je me laisse souvent guider par les archives. J'ai déjà fait celles d'Orléans, celles de Nanterre, etc. Les archives nationales. Donc je vais peut-être me laisser tenter par d'autres types d'archives.
Un vrai historien, quoi.
Et toi, Hugo?
Bah moi, le Sénat, classique, évidemment.
Le Sénat, ouais.
On voulait faire l'Assemblée, mais il faut réserver, et c'est très compliqué. Mais je pense le Sénat, et après, on verra ce qu'il y a de disponible. Mais...
Vous allez le faire de manière perso ou avec l'asso?
Perso, moi, c'est mon côté.
Perso.
Oui.
Et du coup, cette année, il y a déjà des dates de visites, justement, qui sont prévues?
Alors, au contraire, nous avons d'autres projets, des projets vraiment à échelle universitaire,
vas-y,
locale. On reviendra sûrement après sur nos potentiels projets,
ouais.
On peut même être à l'écoute. Nous, cette année, on a décidé de lancer à la fois un journal et un système de parrainage. Si tu veux, Hugo, je te laisse présenter l'un des deux.
Ouais, je vais faire le journal. Donc, une membre du bureau a une super idée, c'était un journal historique. Donc, un journal inclusif. J'entends par inclusif un journal à la portée de tous, non pas seulement à la lecture, mais aussi à l'écriture. Et tous ceux qui le souhaitent, étudiants, professeurs ou personnels, souhaitant écrire, le peuvent. Qu'on s'entende là-dessus, un article peut très bien faire une dizaine de lignes, comme une double page. À condition toutefois d'être corrigé si besoin est. Pas de réelle condition, si ce n'est que le sujet doit comporter un sujet historique. On a déjà plusieurs idées d'articles. On en a un sur les réalisateurs issus de la nouvelle vague. On en a un second également sous la forme d'un compte-rendu présentant les conclusions d'un livre qui vient de paraître la semaine dernière de Mathias Gardet, Nous sommes venus en France, voix de jeunes Algériens 1945-1963. Et à titre personnel, j'envisage aussi d'écrire un article, alors là je pars plus loin, au Brésil, montrer comment le football est un moyen de faire de la politique, notamment avec le cas de Socrates et les Corinthians, comment ces footballeurs ont réussi à lutter contre la dictature militaire au Brésil. Et donc, on a encore plein d'idées d'articles. On a aussi des étudiants qui sont manifestés sur notre compte Instagram, Historia Orléans, pour écrire des articles. Aussi une ancienne camarade, qui est aujourd'hui enseignante, qui a un projet avec ses étudiants, enfin ses élèves. Donc voilà, plein de petits articles qui vont venir, enfin de petites journées.
Papier, web?
Alors justement, les deux. Donc on s'ouvre vraiment à tout. Pourquoi pas aussi
Allez.
Les podcasts, on se laisse tenter, hein. on a pas mal d'idées.
Ça serait super, les podcasts.
Donc vraiment, c'est un journal, vraiment, comme on le dit, c'est inclusif, tout le monde peut participer, donc étudiants, personnel de l'université, professeurs s'ils le souhaitent, même des étudiants extérieurs, voilà. Et que dire de plus, l'histoire, c'est quelque chose qui, nous, on nous a en tout cas appris ça, ça s'appuie sur une méthode, mais on peut faire de l'histoire de tout. Moi, je pense à un de mes camarades qui travaillait sur les sirènes dans les séries télévisées, donc on peut faire de l'histoire culturelle, politique,
on a
économique,
eu la marine
religieuse.
Également à l'opposé, enfin, l'histoire, on peut travailler sur tout.
Voilà.
C'est ça l'avantage de cette matière.
Et donc, ce qui est génial, c'est que les étudiantes et étudiantes peuvent écrire vraiment un article, comme tu le dis, d'une dizaine de lignes, comme jusqu'à une double page, admettons, sur le sujet qu'ils le souhaitent. Donc, par exemple, un étudiant STAPS, s'il le souhaite, il peut écrire un article sur l'histoire des JO, comme si un autre étudiant en chimie, par exemple, peut se permettre d'écrire un article, je sais pas, par exemple sur la catastrophe de Tchernobyl, par exemple. Enfin, c'est des exemples un peu clichés, mais ils se valent, en l'occurrence.
Combien de pages?
Donc, encore une fois, le format est ouvert. Hein,
ouais, c'est vraiment... Ouais.
C'est ça. Donc, on fera un tirage papier, et dans tous les cas, il sera digitalisé.
On essaiera de le mettre à la BU, pour qu'il soit consultable par tous et toutes, et trimestriel, si tu
trimestriel.
Peux
trimestriel.
Ouais.
Trimestriel. Ouais.
Donc, il y en aura 3 sur l'année.
C'est ça.
Ce serait super.
Donc, peut-être que pour la première année, on verra uniquement 2 numéros. Pourquoi ? Parce qu'il faut aussi... c'est ça aussi ce qui se cache
lancer,
derrière une
quoi.
Association, c'est le lancer et obtenir les fonds. Donc, on va faire une demande auprès de la FSDIE. Donc, voilà.
Eh ben, c'est fantastique, j'ai envie de dire. Donc, ce journal, ça me fait penser à... Il y a aussi une autre asso tributaire.
Très bien.
Qui fait son journal Omniscience. Enfin, il le faisait. Je me rappelle, c'était mensuel et c'était s'appelait Omniscience. Du coup, le projet de journal et c'était vraiment de la vulgarisation scientifique. Et puis c'était Andrea et j'ai oublié son nom. Ça va me revenir dans un instant. Qui du coup venait également à l'antenne tous les mois quand il le sortait pour faire l'édito et le présenter. Donc évidemment, je vous invite ici en direct à l'antenne. Je vous
Allez,
invite du coup quoi,
noté,
à venir
noté.
Faire l'édito du journal à chaque fois qu'il sortira ici même dans cette émission d'Écoute ta fac. D'autres projets également en perspective.
Et bah, le parrainage.
Le parrainage, allons-y.
Et bah, le parrainage, c'est quoi? C'est tout simplement un moyen pour étudier les étudiants L1, L2. Les aider sur la méthodologie, mais également se créer un cercle d'amis. Donc, on a mis en place des affiches partout dans l'UFR avec un petit QR code. On le scanne, on a un formulaire, on répond aux petites questions. Et on peut soit être parrain ou marraine ou alors être parrainé.
Et donc, moi, ce que je pourrais rajouter à cela, c'est que, encore une fois, quand on arrive à l'Université d'Orléans et quand on est en histoire, l'objectif essentiel pour réussir, en tout cas la première année et plus loin encore, la licence, c'est d'obtenir, de comprendre finalement la méthodologie en histoire. Donc, on a eu en fait des retours des étudiants de L1 et de L2 qui disent avoir quelques difficultés là-dessus. Donc, on a lancé un système de parrainage qui a été largement bien accueilli par les professeurs de l'Université d'Orléans. Et donc, en l'occurrence, on a essayé d'être le plus fun possible aussi, parce que faut trouver aussi son parrain, sa marraine, son filleul, et ça peut faire peur finalement à des néo-étudiants d'arriver et de rencontrer un grand. Donc, on leur a demandé quelles étaient leurs périodes historiques préférées, des événements, un livre, un film, etc. Et on va essayer de former les meilleurs binômes qui soient. Donc, encore une fois, soit pour obtenir des conseils méthodologiques, ou encore une fois pour élargir son cercle amical. Pourquoi ? Parce que c'est ça aussi l'enjeu quand on est étudiant, c'est aussi le bien-être, c'est se sentir bien, être heureux de venir à la fac.
On peut pas réussir ses études en restant tout seul, c'est pas possible.
Voilà.
Faut s'ouvrir au monde et faut apprendre à connaître les gens.
S'engager dans une association,
par exemple. On est là pour ça. Pour ça, on organise des soirées d'un thé pour que les gens apprennent à se connaître. C'est vraiment important.
Tout à fait. On en profite en parlant de soirée d'un thé. Nous avons notre soirée d'intégration mercredi prochain à l'atelier avec une autre asso étudiante, Molbière, donc, qui est une asso LLSH pour, enfin, en destination des étudiants de lettres, de sciences de langage et de lettres, de langue, pardon.
À 20h.
À 20h à l'atelier, rue de Bourgogne.
On vous attend nombreux.
Eh bien, où est-ce qu'on retrouve cette actualité? J'imagine que vous avez une page Instagram, tu
page
l'as
Instagram,
cité tout à l'heure.
Historia Orléans, allez nous suivre. On met plein de stories, on vous tient au jus, on va même mettre des petites publications, même pour, on avait pensé à des livres, à des sorties, enfin, on a plein de choses de prévues, allez nous suivre, Historia Orléans, sur Instagram.
En fait, c'est ça le problème de cette année, ce qui n'est pas un problème, c'est que nous avons des idées constamment en effervescence, et donc, justement, on travaille justement, parce qu'on a une vraie proximité avec les professeurs d'histoire.
Un bureau très actif,
et donc, prochainement, d'autres... conférences à venir, des expositions, des partenariats aussi avec la bibliothèque dans lequel on va proposer une sorte de livre que l'on conseille, etc.
Un peu de veille scientifique au fond,
tout à fait.
Pour accompagner les étudiants dans leurs exposés notamment. C'est très utile, j'aurais bien été heureux moi, en L2 et L3 d'avoir eu une association comme ça qui m'aide avec des livres qui servent tout simplement aux exposés. Nous maintenant on a un peu d'expérience, on sait ce que les profs attendent et les ouvrages les plus pertinents, on va dire.
Tout à fait.
Eh bien, c'est fantastique. Vous êtes combien dans l'asso actuellement ?
On vient de recruter pas mal de monde, donc ouais. On parle en termes de bureaux ou de...
Vas-y, on va donner tous les chiffres, on va faire entonnoir au plus large. Combien d'adhérents cette année ?
Alors, cette année, enfin, on va donner les chiffres de l'année dernière, parce que là,
on vient de relancer.
Vas-y. L'année dernière, on était 125 adhérents.
Ah ouais ?
Et on était un bureau de 10 personnes, et aujourd'hui on est 18.
Ouais, on est...
Ah, il y a un noyau dur de 18 personnes quand même.
Ouais. Tout à fait, oui.
Au quotidien, qui travaille.
Et bah, franchement, félicitations, quoi. Nous, à Radio Campus Orléans, on n'a pas encore fait totalement la rentrée. On accueille justement les étudiants, étudiantes et autres personnes non étudiants qui souhaiteraient rejoindre la radio. Ça sera le mercredi 25. On accueille à partir de 17h, ça commencera vraiment à 18h. Donc moi, je croise les doigts pour qu'on ait autant de monde que vous qui viennent à notre rencontre. Voilà. Je pense qu'on a à peu près tout dit, sauf si vous avez d'autres choses à dire.
Tout est bon.
Super.
Oui, tout à fait, voilà.
Eh bien, merci beaucoup, Adrien, président de Historiae, accompagné de Hugo, vice-président de la même association. Et derrière, en coulisses, qui faisait les photos, c'est Suzy, c'est ça ?
Suzy, qui fait partie de la culture.
C'est ça.
Eh bien, super. Restez avec nous sur Radio Campus Orléans dans Écoute ta fac. On revient dans quelques instants, on parlera de précarité alimentaire avec Radio Campus Tours, mais pour l'heure, Flying Lotus et leur titre Garmon Bosia. On dirait un nom de fromage, mais on dirait du gorgonzola, mais non, c'est du Garmon Bosia. Tout de suite.
Is it the future or past?
Garmon Bosia, c'est un titre de Flying Lotus sur Radio Campus Orléans. Je le rappelle, vous nous écoutez en FM, c'est sur le 88.3 en radio numérique terrestre, toujours sur la zone d'Orléans et évidemment partout dans le monde sur orléans.radiocampus.org. Orléans, on va prendre un petit train rapidement, hop, en un claquement de doigts, on se retrouve à Tours. Je vous propose d'écouter un reportage qui est réalisé par Radio Campus Tours. On est sur le campus de Grandmont à Tours et nos chers amis de Radio Campus Tours rencontrent Anna Teresa, étudiante brésilienne, Mohamed et Hamza, tous deux étudiants marocains. Trois étudiants et étudiantes internationaux investis dans l'association étudiante Les Halles de Rabelais qui lutte contre la précarité alimentaire. Ils nous parlent de leur parcours et nous présentent leur association que la crise sanitaire rend plus indispensable que jamais pour les étudiants les plus pauvres. À la précarité alimentaire s'ajoute aussi souvent, comme le souligne Cédric Carl de l'Atelier 21, la précarité énergétique et il y a aussi, entre autres, la précarité menstruelle pour les femmes. Des difficultés qu'ils traversent avec le sourire grâce à la solidarité entre étudiants internationaux et la fierté de s'en sortir. C'est donc un reportage de Radio Campus Tours réalisé en 2020 et pourtant toujours d'actualité.
Ça, on met une petite table pour les bénéficiaires, le temps d'attente en fait pour passer, pour qu'ils prennent les denrées alimentaires. Donc bah, on met à disposition une petite table avec du thé ou du café et puis bah, de quoi grignoter. Et puis voilà. Donc par exemple là lundi prochain, enfin le mardi 8 décembre, on a prévu une distribution. Donc il y a le camion de la banque alimentaire qui arrive, il prend tout ça et puis il décharge les cartons pleins avec les denrées alimentaires. Donc juste ici, c'est là où on distribue les denrées alimentaires en question. Donc vous allez voir, tu peux rentrer Cédric. En fait là, quand il y a des rayons ici, il y a toujours des bénévoles qui se mettent là. Et puis bah, le bénéficiaire, quand il rentre là, il prend par exemple ici, on a l'habitude de mettre du café puis des pâtes. Ici on a l'habitude de mettre tout ce qui conserve des légumes et puis de viande aussi. Et puis là, on met tout ce qui est du thon, des sardines et puis bah, des boîtes de confiture par exemple, ou des œufs ou de l'huile. On a quasiment tout type de denrées alimentaires. Et puis bah, on stocke le lait là-bas. Bah, on distribue au fur et à mesure à tous les étudiants. Et puis bah, là, je consacre les deux tables ici, en fait, pour une petite association qui vient en aide. En fait, c'est une association de Yolen. On appelle ça Association de Yolen pour les fruits et légumes. En fait, ils nous donnent des fruits et des légumes. Ben, je demande toujours à ce que deux étudiants se mettent ici pour distribuer aussi fruits et légumes. Et puis, voilà.
Oui, alors je me présente, je m'appelle Mohamed Touffé. Je suis étudiant au Master 2 spécialité finance et contrôle gestion. C'est ma dernière année. Je suis secrétaire de l'association, je suis bénévole depuis 2017. Alors, je tiens déjà à vous remercier pour votre présence, pour l'intérêt que vous nous portez. En fait, la précarité touche précisément les étudiants étrangers. Et moi, j'ai passé par là. Je suis étudiant étranger depuis 2017, parce que j'avais déjà entamé mes études au Maroc, après je suis venu ici. Alors, j'ai vraiment vécu le choc, soit culturel. Au début, j'avais pas de ressources, j'avais pas de travail. Du coup, vraiment, j'ai vécu un petit peu la précarité étudiante. C'est pour ça que je me suis dit, parce que j'étais bénéficiaire des Halles de Rabelais pendant 3 mois. Après, je me suis dit, parce qu'ils avaient déjà besoin de bénévoles, bah, j'ai pris l'initiative et c'est pour ça. Manger, on n'a pas atteint ce degré-là de ne pas avoir mangé. Mais déjà, quand je suis venu ici, déjà, je n'avais pas d'hébergement. J'avais pas de réservation à l'hôtel. Je trouvais pas où dormir déjà. Je suis descendu à l'aéroport, je suis allé voir le CROUS. J'avais pas rempli les formalités administratives. Du coup, ils m'ont donné vraiment une chambre, mais j'étais dans un mois. Du coup, ce mois-là, il faut que je me débrouille tout seul. Du coup, j'ai trouvé un camarade de classe qui m'a hébergé pendant 20 jours. Ces 20 jours-là, je vais pas mentir, j'avais un petit peu d'argent de poche. Du coup, quand même, j'arrivais à me débrouiller un petit peu. Surtout, je vais pas dire, j'accomplis tous mes besoins, mais surtout les besoins psychologiques, les besoins, comme vous avez dit, de manger, de sortir, de m'habiller un petit peu. Je vis pas le luxe, ni à l'époque, ni maintenant, mais je trouvais quand même quoi manger et la personne qui m'a hébergé, que je tiens à remercier, c'était Omar Dakik. Du coup, maintenant, il est étudiant à Lille. Du coup, le premier mois, ça va, ça s'est passé. J'ai eu ma chambre ici à Gramont. C'est pour ça, en fait, j'étais un petit peu prêt à l'association. J'étais bénéficiaire, comme j'ai dit, pendant 2-3 mois. Après, ils avaient besoin. Et moi, j'avais vraiment envie parce que j'ai galéré un petit peu. C'est pour ça, en fait, quand je vois les étudiants qui ont arrivé cette année, déjà, à mon époque, il n'y avait pas de Covid. Du coup, ça va, au mois de décembre, j'avais trouvé un travail. Je me débrouillais bien quand même. Un petit travail, juste histoire de payer le loyer, de payer des besoins de première nécessité. Du coup, quand je vois les étudiants en train de galérer, il n'y a pas de travail. Au niveau de logement, ça va. Le CROUS, ça va. Ils sont accueillants, même au niveau de démarches administratives. C'est mon histoire.
Voilà, mais qu'est-ce qu'on mange quand on n'a pas de sous et qu'on est étudiant?
Alors, alors le plat préféré des Français, c'est les pâtes. Ce sont les moins chers. Je vais pas mentir. Les pâtes, le riz. Les pâtes, le riz. Comme j'ai dit, c'est un petit peu le choc culturel parce que nous, au Maroc, on n'est pas habitué à tout ça.
On essaie de faire des courses à petit prix, en fait.
Voilà, on n'est pas habitué à tout ça. On n'avait pas de contraintes budgétaires. Du coup, et même au niveau d'habitude alimentaire et tout ça, il y avait un petit choc quand même. Mais bon, on arrivait quand même, comme j'ai dit, il y a le riz, les pâtes, les plats qui ont une valeur nutritionnelle et à petit prix. Parce qu'en fait, quand tu viens ici, tu as toujours dans la tête, dans ton cerveau, le dirham marocain. Du coup, par exemple, quand tu vas par exemple au supermarché, tu vois par exemple, le moins cher, par exemple, on parle des tomates, le moins cher par exemple à 1 euro, tu le convertis directement au dirham, tu as 10 dirhams. Là-bas, avec 10 dirhams, avec 1 euro, tu achètes 5-6 kilos de tomates. Du coup, tu vois la différence. Surtout quand tu ne travailles pas, tu vois la différence. Mais après, avec le temps, tu t'habitues, et après, ça devient le moins cher. Voilà.
Au niveau des logements, etc. Est-ce que toi, tu as eu des difficultés dans ton parcours ou c'était OK? Est-ce que tu as eu du mal à payer des factures d'énergie? Est-ce que tu as eu le froid en Touraine et l'humidité? Est-ce que ça a été quelque chose de problématique pour toi?
Alors, moi, en fait, je suis logé ici au CROUS. Au CROUS, c'est des chambres, c'est des charges incluses. En fait, soit au niveau de l'électricité, au niveau du chauffage, ils sont isolés, ils sont rénovés. Alors, tout problème d'énergie, pour moi, ça n'existe pas. Ici, quand je parle ici de CROUS, quand je sors de CROUS, par exemple, le premier mois que je suis venu ici, j'ai dormi par terre sur des cartons. Du coup, on parle un petit peu de froid. Mais bon, quand on parle de la situation actuelle, ça va, je ne trouve pas de problème d'énergie parce que toutes les charges sont incluses et le loyer, que tu peux payer facilement ton loyer. On ne va pas mentir. Après, avec les aides de CAF et tout ça, on arrive à s'en sortir quand même.
Voilà, bonjour, je me présente, je m'appelle Hamza. Je suis étudiant à l'Université de Tours. Je suis inscrit en L3 droit privé au titre de l'année 2020-2021. Je suis également président au sein de l'association Les Halles de Rabelais depuis le début de cette année. En fait, je mets le point sur ce qu'il a dit Mohamed par rapport à la question qu'a posée Cédric. En fait, c'était par rapport à l'énergie. En fait, nous, on ne peut pas savoir l'énergie en fait, est-ce qu'on a, est-ce que dont on a besoin en fait, quand on est logé au CROUS. Par exemple, moi, depuis 2017, que j'étais au CROUS, donc j'ai vécu 3 ans au CROUS. On paye pas de, on paye pas de charges. Toutes les charges sont comprises. On voit pas en fait l'intérêt du chauffage. Donc c'est le moment où je suis sorti du CROUS et j'ai pris un petit appart, comme la plupart des étudiants français. Donc à ce moment-là, je me suis rendu compte que, par exemple, en contactant l'EDF, il m'a proposé des tarifs qui sont vraiment, on va dire, flagrants, parce qu'en fait, il m'a proposé 75 euros. Alors que 75 euros, si vous voulez, c'est le prix que je payais pendant toutes les 3 années en étant étudiant salarié. Ça veut dire, quand on dit étudiant salarié, ça veut dire que je travaille à temps partiel, des petits jobs étudiants. Donc, en question d'énergie, je vois pas vraiment quand on en a besoin, en fait, en étant résident au CROUS. Moi, quand je suis sorti pour chercher un appart, j'ai fait, comme peut-être partout, tous les étudiants le font. Ils cherchent un appart, ça veut dire qu'ils prévoient des prix qui sont un peu plus chers que CROUS. C'est bien. Mais par contre, comme je vous ai dit pour l'EDF, c'était vraiment très cher. Ouais, c'était très cher. Donc c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte du terme énergie. Donc pour me réchauffer, il fallait que je paye. Par contre, comparativement au CROUS, on paye pas. Donc on paye pour 9 mètres carrés, on paye 224 euros avec les aides de la CAF en fait pour les étudiants qui travaillent. C'est ça en fait, pour les étudiants qui travaillent, ils reçoivent beaucoup d'allocations, un prix plus élevé que les autres qui ne travaillent pas. En fait. Donc c'était mon cas, je suis tombé sur une dame qui ne m'a pas beaucoup expliqué. En fait elle m'a dit, la locataire, parce que moi je connaissais la locataire qui était avant moi, c'est elle on va dire qui m'a cédé l'appart, elle m'a dit moi je payais que 19 euros. Alors que d'après ce qu'elle m'a dit la conseillère, elle habitait dans l'appart, là où je suis maintenant, il habitait pendant la période estivale. Donc, logiquement, elle n'utilise pas de chauffage. Donc, je lui dis, moi, tant que je n'ai pas prévu, en fait, assez de charges pour la facture de l'EDF, je lui dis, on peut partir sur 100 chauffage. Voilà, donc on peut partir sur la même facture de 19 euros ou 25 euros, mais vous ne mettez pas de chauffage. Elle m'a dit, par contre, si vous mettez de chauffage, ça risque d'être une grosse facture.
Voilà. Donc hiver sans chauffage.
Voilà, hiver sans chauffage. Ouais. Tout à fait.
Comment survit à ça alors?
Alors, moi franchement, je ne peux pas vous dire parce que je n'ai pas vécu cette expérience. Hiver sans chauffage, heureusement que je ne l'ai pas vécu. Ce n'est pas mon cas. J'ai pas, franchement, je laisse Hamza qui va découvrir ça cet hiver.
Donc
le meilleur hiver, est à venir.
Mais je comprends. Hiver sans chauffage, d'où votre présence déjà. Donc, c'est pour nous soutenir, en fait, et pour nous expliquer s'il y a des astuces ou des techniques pour pouvoir se réchauffer.
Tu peux nous raconter comment tu t'es retrouvé, toi, bénévole, ici?
Voilà. Comment je me suis retrouvé bénévole ici, c'était le même chemin que Mohamed. On est arrivés tous les deux ici en 2017. On est tous les deux étudiants d'origine marocaine, sauf qu'on ne se connaissait pas avant. On s'est connus ici. On s'est connus. On a commencé ici en tant que bénéficiaire, comme il a dit tout à l'heure. Quand on arrive ici, peu de ressources, pas de travail, pas de bourse, parce qu'en fait, les étudiants étrangers, sauf ceux qui sont vraiment excellents, qui ont des bourses. Donc nous, on n'était pas qualifiés vraiment au premier rang d'excellence. Donc ça, il faut le dire, avec toute honnêteté. Donc après, on arrive ici, on entend, bouche à oreille, on entend qu'il y a une association qui s'appelle les Halles de Rabelais, qui est sur le campus de Grandmont. Nous, on était juste à côté. Donc il y a plein de bâtiments ici. Presque 8 bâtiments, chaque bâtiment il a 250 étudiants. Donc on entend parler d'une association Les Halles de Rabelais qui distribue des denrées alimentaires pour pouvoir sauver les étudiants. On va dire, en fait ça peut dépanner, mais pas vraiment à long terme. Donc nous on a compris le truc, on s'est dit tiens, on va bénéficier cette fois-ci pendant 2-3 mois, voire une année, après on va se débrouiller. Et justement c'était le cas. Donc on a commencé à être bénéficiaire depuis septembre 2017 jusqu'au fin d'année, c'était juin 2018. après, bah, à partir du mois de juin 2018, on n'est plus bénéficiaire. Donc on a commencé, enfin on a compris le truc ici en France, comment ça se passe, parce que les étudiants, quand on regarde, les étudiants ont des voitures là maintenant, les étudiants ont un appart, l'étudiant est autonome, il peut décider, il est vraiment indépendant de ses parents, c'est pas le cas au Maroc. Donc les étudiants sont toujours pris en charge. Je reviens toujours au Maroc parce que c'est vraiment à titre comparatif en fait. C'est les étudiants au Maroc sont toujours pris en charge, vraiment jusqu'à 28 ans voire 30 ans, par les parents qui n'ont pas beaucoup de ressources. Mais en fait je reviens sur le sujet. Bah, après début de l'année 2018-2019, on a commencé à être bénévole parce que l'étudiante qui était bénévole. Enfin, qu'on a connu en tant que bénéficiaire, et nous a proposé d'être bénévole. On n'a pas refusé, on a accepté ça avec plaisir, parce que, en fait, ça peut servir les étudiants qui étaient ou qui sont comme nous. Et puis, bah, on a accepté cette idée. Bah, on est parti en tant que bénévole. Et l'année d'après, bah, un de notre équipe, en fait, qu'on était trois amis, bah, il s'est proposé d'être président. Donc, il a été élu président. Bah, puis il est plus étudiant, donc il a été président l'année dernière, et là cette année il est plus étudiant. Bah, comme moi je suis toujours étudiant en droit, parce qu'on n'avait pas le même parcours, eux ils sont arrivés ici avec une licence, moi je suis pas arrivé avec une licence, j'ai commencé en L1 droit. Bah, après moi je suis élu président pour cette année, donc voici le chemin en fait. On a commencé bénéficiaire, et là cette année, bah, au bout de 4 ans, moi je suis président.
Est-ce que c'est la honte de ne pas avoir de sous ou d'avoir faim ?
Pas du tout, ce n'est pas une honte. Parce que, en fait, parce que c'est la vie étudiante, on peut le résumer dans 5 ans, 6 ans. Après, tu vas entamer ta carrière professionnelle. Alors, ce n'est pas une honte parce que c'est une période qui va passer. Et c'est tout. Après, tu vas t'en rappeler de ces années-là. Après, tu vas juste rigoler parce que tu n'avais pas de sous, mais maintenant... Dans le futur, tu auras ton travail pour lequel tu as galéré, tu as passé des années sans vraiment des ressources. Parce que nous, par exemple, juste, Hamza, il a parlé des aides, mais il y a d'autres choses, il y a d'autres contraintes en fait. Parce que nous, les étudiants étrangers, même si on travaille, par exemple, moi, je travaille maintenant 2 ans, 3 ans des jobs à temps partiel, on n'a pas le droit au chômage. Même si tu cumules des heures, tu n'as pas le droit au chômage. Par exemple, avec le Covid, si je ne trouve pas de travail, je n'ai pas de ressources. Du coup, je retourne toujours à l'étape zéro. Vous voyez ce que je veux dire ? Du coup, oui, il y a toujours des problématiques. Mais comme j'ai dit, c'est une période qu'on va passer après. Mais en fait, comme on a expliqué à la commission SVEC à la fac, à l'université de Tours, il y a franchement une demande qui augmente de chaque distribution. Parce qu'en fait, comment on s'organise ? En fait, on donne aux étudiants, tous les étudiants, ils ont 2 paniers d'urgence, c'est-à-dire sans ramener un justificatif de besoin. Après, les 2 paniers d'urgence, en fait, ils sont obligés d'aller voir les assistantes sociales. C'est eux, en fait, qui évaluent leurs besoins, s'ils sont vraiment dans le besoin ou pas. Alors déjà, nous, par exemple, la première distribution, on a servi combien ? On a servi 148. La deuxième distribution, on avait déjà les 148 et on trouve 30 ou 40 qui viennent. Du coup, après, oui, il y a toujours une demande, surtout avec le Covid. Il y a une demande et nous, on ne peut pas satisfaire tout ça. Parce qu'en fait, au niveau de denrées alimentaires, il n'y a que la banque alimentaire qui nous donne des denrées. Ce n'est pas qu'ils nous donnent, mais on paye. Mais on paye pas la totalité à 100%. Voilà, c'est symbolique. Bah ouais, c'est ça, c'est un vrai problème quoi.
Alors comment vous faites avec les étudiants s'il y a trop de monde en fait, comment vous gérez en fait le trop de monde ? Est-ce que vous vous orientez vers d'autres institutions ou d'autres aides d'urgence ?
Voilà, effectivement.
Bonjour.
Voilà, effectivement en fait, si on reçoit beaucoup de monde, on l'a pas encore appliqué parce que en fait déjà dans le règlement, tous les étudiants ont 2 paniers d'urgence. Alors normalement à partir le 3e panier d'urgence, à partir de la 3e distribution, en fait, s'ils ramènent, s'ils apportent un justificatif comme quoi ils sont dans le besoin, on les accepte, on les accueille. Sinon, bah, on les redirige vers des associations comme il a dit Hamza Temilia, comme on a par exemple les Restos du Cœur qui aident un jour par semaine les étudiants. Du coup, voilà, nous, on ne peut pas recevoir tout le monde.
Donc voilà, comme vous le savez ou vous ne le savez pas, c'est la Banque alimentaire, en fait, qui nous fait un enlèvement chaque premier mardi du mois. Donc, et nous, on fait ça dans les deux chambres. On a une chambre de stockage. On paye un forfait de 3 500, voire 4 000 euros par an. En fait, et à chaque mois, ils nous donnent 3 tonnes, en fait, de denrées alimentaires. Donc, on stocke ça, on répartit tous les produits alimentaires, on les répartit pour les distribuer par 2 quinzaines, en fait, le premier mardi du mois et le dernier mardi du mois. Non, et le troisième mardi du mois, pardon. Donc, ce qu'on fait dans notre première activité, c'est qu'on donne 2 paniers d'urgence à tous les étudiants, qu'ils soient en précarité ou pas. Et en fait, on leur demande au fil du temps, on leur demande à partir de la troisième distribution qu'ils prennent contact avec l'assistante sociale. Et c'est celle-ci qui va évaluer leur situation sociale pour dire est-ce que vraiment pour estimer leur précarité. Par exemple, on a des étudiants qui sont entre parenthèses profiteurs. Ils se sentent pas vraiment en précarité. Et du moment où ils partent voir l'assistante sociale, à celle-ci, elle leur demande de lui envoyer les relevés bancaires. À ce moment-là, tout le monde s'abstient à le faire et tout le monde renonce à l'affaire.
Voilà, mais bon, comme il a dit, en fait, juste pour répondre à la question, s'il y a vraiment une demande croissante, ça t'entrait, oui. Par exemple, normalement, comme il a dit Hamza, on a un enlèvement par mois. On partage, on divise sur deux, pour 2 distributions par exemple, pour 2 distributions par mois. Mais cette année, c'est exceptionnel. Pour la première distribution, on a utilisé toutes les denrées que la Banque alimentaire nous a données. Du coup, là, pour la deuxième distribution, on ne trouve rien à donner. C'est pour ça, après, on a trouvé des solutions, mais c'était juste provisoire. On a sollicité la Banque alimentaire pour qu'ils nous donnent plus de denrées, mais c'était exceptionnel. C'était hors forfait, mais c'était exceptionnel. Parce que normalement, les années précédentes, bah, on recevait entre 80 et 100 par distribution. Du coup, là, on était surpris. On a un petit peu accueilli 150 étudiants la première distribution.
On est arrivé à 206 étudiants. 206. Voilà. En fait, quand je vous dis ce chiffre-là de 206 étudiants qui sont enregistrés dans notre ordi, en fait.
Voilà.
Donc, ces étudiants-là, pas forcément sont en précarité parce qu'ils ne sont pas encore évalués par l'assistance sociale. Non. Et l'assistante sociale, en fait, pour dégager un peu de responsabilité, pour qu'ils se sentent un peu à l'aise, elle nous demande, voire elle nous exige d'orienter les étudiants vers d'autres associations qui proposent la même chose que nous.
Parce qu'après, il faut le dire, même les assistantes sociales, elles n'ont pas en fait la capacité d'accueillir tous les étudiants. Parce que par exemple, quand on parle de 200 étudiants, ils sont deux. Ils sont deux, par exemple, les assistantes de l'Université de Tours. Ils ne peuvent pas accueillir tous les étudiants. Parce que par exemple, si on a 200, par exemple, comme il nous a dit, ils ont 6 créneaux par jour. Six rendez-vous par jour. 6 fois 5, ça fait 30. Bah, 30, et il faut des mois et des mois pour traiter toutes les demandes. Ouais. Du coup, nous, on est obligés quand même de les accueillir. Même s'ils ne fournissent pas le justificatif comme quoi ils sont dans le besoin, on est obligés. Voilà, parce que ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de la faute non plus des assistants sociales.
En fait.
Mais c'est le système, il est comme ça. On est obligés de les accueillir. Mais après, comme il a dit qu'avec au fil du temps, normalement, ouais. ce nombre-là il se stabilise vers les 100 comme ça.
Ouais. Alors, je vois qu'il y a une jeune femme qui nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour. Je m'appelle Andresa. J'ai 20 ans. Je fais L2 en psychologie à l'Université de Tours. Je suis brésilienne. Hamza, il m'a invité à participer, c'est le 27-28, pour participer d'une action bénévole ici. Du coup, je vais aider, mais je viens de connaître l'association, en fait, j'ai connu par Facebook. Et parce que je suis déjà allée au Reste du Cœur, par exemple, et je voulais connaître d'autres associations aussi. Oui, avec la crise du Brésil, maintenant, avec cette crise sanitaire, notre monnaie, le réel brésilien, il est beaucoup dévalorisé en comparaison au euro. Donc, quand je paie en euros, par exemple, c'est comme si je payais 6 euros. Du coup, c'est compliqué, je fais vraiment une aventure cette année. mes parents m'aident comme ils peuvent. Mais c'est pas vraiment suffisant. Donc il faut que à partir de l'année prochaine, je trouve un travail, quelque chose pour m'aider parce que c'est pas suffisant. Je suis au CROUS, oui, je suis au CROUS. Parce que c'est l'option moins chère et c'est aussi parce que j'ai choisi des villes en France. Par exemple, je ne pouvais jamais choisir Paris. C'est trop cher pour moi, vraiment trop cher. Une chose, par exemple, que je ne peux pas faire encore, c'est un forfait Internet. Je dépends des Wi-Fi public, des Wi-Fi du CROUS, parce que je ne peux pas. Un forfait genre 15 €, c'est déjà cher pour moi. Du coup, il y a cette difficulté aussi au niveau connexion. Au niveau, si tout est plus cher, si vraiment tout est plus cher, donc c'est d'une escale globale, générale. Je fais un calcul mental ici, genre, dans les meilleurs mois, 300 €. Ouais. Ouais. Du coup, de 300, parfois 300 quelque chose, et mais la chambre au CROUS, c'est déjà 255. Et ça reste pas beaucoup pour faire quelque chose.
50 € ou 45 €. 45 € pour le transport, déjà, ça part 27 €. Et puis, bah, il lui reste 10 €. 10 €, ce que c'est peur pour s'habiller ou pour acheter des produits d'hygiène pour elle ou pour faire un abonnement téléphonique ou pour l'argent de poche. Voilà. Donc,
Est-ce que justement vous avez imaginé travailler aussi peut-être sur les produits d'hygiène? Est-ce que vous avez des pistes pour faire des récupérations, etc., par rapport à ces produits-là?
Oui, en fait, on a une association en partenariat qui s'appelle Entraide IAE, qui est sur de Lyon. En fait, eux, ils contactent de leur part pas mal d'entreprises qui pourraient nous aider, mm-hmm. en fait, à nous fournir des produits d'hygiène et des produits sanitaires.
Il y aura même une action qui sera mise en place par la Banque alimentaire. En fait, c'est un budget d'État, en fait, donné à la Banque alimentaire, qui va en fait le distribuer sur 4 associations. Et nous, on était choisis par la Banque alimentaire pour nous donner des produits d'hygiène.
Ouais. Mmh. Il y a également un point, je ne sais pas si ça vous dit, la précarité menstruelle.
Bien sûr.
Donc c'est à destination des femmes, c'est pour en fait pour leur aider en fait à acheter les serviettes.
Voilà un reportage de Radio Campus Tour à retrouver sur radiocampustour.com. Vous êtes avec nous toujours sur Radio Campus Orléans pour encore 4 petites minutes jusqu'à 13h.
Si toi aussi tu veux rejoindre l'équipe d'Écoute ta fac ou de Radio Campus,
bah ouais, on peut.
Rendez-vous dans nos studios 4 rue de Tours, 45 100 Orléans, La Source.
Ah, pas mal!
Et on se donne rendez-vous mercredi 25 septembre à partir de 17h pour pouvoir rejoindre l'équipe de Radio Campus Orléans. Et si vous aimez la musique, ça tombe bien parce qu'on a aussi une radio musicale. On a une grande programmation musicale à découvrir, des fricheuses que vous n'entendrez pas sur d'autres radios et que les algorithmes des plateformes d'écoute ne vont pas forcément mettre en avant. C'est le cas de ce titre Love David de Ross from Friends, remixé par Bubble Love. A tout de suite. voilà, Écoute ta fac, ça va être fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis sur cette nouvelle édition, sur ce nouveau numéro. On se donne rendez-vous demain pour une édition spéciale, étant donné que demain ce sera Happy Campus Day, le forum des associations de l'Université d'Orléans qui se tiendra ici même sur la place du forum, là où se trouve Radio Campus Orléans. Donc si vous souhaitez venir nous rencontrer, venir visiter la radio, ce sera demain sur le campus de l'université à partir de 11h et ce jusqu'à 17h. Si vous souhaitez également rejoindre Radio Campus, je le disais, on se donne rendez-vous dans tout juste une semaine, mercredi 25 septembre. On ouvre les portières à partir de 17h et à 18h, on fait une soirée d'accueil des nouveaux bénévoles, que vous soyez étudiant, étudiante ou non. Vous pouvez rejoindre Radio Campus Orléans et si vous n'êtes pas dispo ce jour-là, n'hésitez pas tout de même à nous contacter sur notre site internet, c'est orleans.radiocampus.org, et vous pouvez aller sur la page devenir bénévole, le lien est tout en bas de notre site internet. Deux jours plus tard, vendredi 27, dans une semaine et demie, on se donne rendez-vous pour le premier apéro duo de la saison de Radio Campus Orléans, un apéro duo spécial 30 ans. Vous allez en découvrir quelques-uns jusqu'en novembre, enfin il y aura celui de la semaine prochaine et également celui de novembre. Ce sera au 108 de la rue de Bourgogne. Dans les prochains jours, on va vous sortir la programmation, donc soyez à l'affût et abonnez-vous sur nos réseaux sociaux, puisque vous pourrez trouver toute la programmation complète également sur nos réseaux sociaux. Vos émissions continuent tout à l'heure sur Radio Campus Orléans, de la musique jusqu'à 14h. Parlons philo avec Laurence Lacroix. Ensuite, on continue avec, si je dis pas de bêtises, 16h, Victor Dancefloor, il devrait être de retour. Roll Mob, c'est une semaine sur deux. Je crois que ça va être ce soir. L'émission de cinéma